Voilà, bonsoir à tous. Je commencerai d'abord par un état de la question. Comment l'Église se positionne devant cette question qui nous rassemble ce soir, foi chrétienne et homosexualité? Il ne peut pas s'agir ce soir d'un débat d'école dans lequel s'opposeraient deux postures. L'une disant « il ne peut pas y avoir de rapport » et on ne cherche pas le rapport, ou l'autre, il n'y a pas de problème. Mais encore faut-il savoir où se situe le problème, et problématiser la question pour voir comment on peut avancer. Et les choses bougent depuis, notamment, le synode sur la famille qui s'est tenu il y a quelques années. On ne peut pas réfléchir à cette question à partir de postures figé, idéologique ou doctrinal. Ça ne ferait pas beaucoup avancer la question. Et l'apport précieux du pape François est d'avoir resitué cette problématique dans une vision résolument pastorale et évangélisatrice. Disons un mot sur ce qui fait souvent débat, c'est le catéchisme de l'Église catholique. Plusieurs textes bibliques condamne explicitement l'homosexualité, dans le Lévitique, mais aussi jusqu'à Romains. Ce sont des textes qui restent délicats à interpréter. Vu leur contexte culturel, ça demande une interprétation contextualisée. Le point central, c'est que dans la Bible, l'altérité sexuelle, homme et femme, il les créa, que l'on trouve au début de la Bible, dans la Genèse, est présenté comme quelque chose d'essentiel dans le projet créateur de Dieu. Dieu crée l'homme, homme et femme. Cette différenciation, voulue par Dieu, préside à la transmission de la vie. Elle est symboliquement liée aussi à la reconnaissance de la condition limitée de toute créature. Je ne suis pas tout à moi tout seul. J'ai besoin d'un autre. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, dit Dieu dans la Genèse. Donc, conjuguer la différence, c'est constitutif de notre humanité. Dieu a créé en séparant le jour, la nuit, la mer, la terre. On peut reprendre toutes les différenciations. Il a mis de l'ordre dans l'univers. Et l'ordre, la différenciation sexuelle, participe de cet ordre. Et donc, ce qui amène le catéchisme de l'Église catholique de parler de l'homosexualité comme d'une menace à cet ordre symbolique structurant du projet créateur de Dieu. Mais la doctrine avance et finalement, elle utilise une expression qui est souvent mal comprise en parlant des actes homosexuels qualifiés d'intrinsèquement désordonné. Le problème, c'est qu'on interprète le désordonné de façon pécamineuse, c'est-à-dire lié à une faute, ou d'une façon perverse. Alors que le désordonné fait référence à l'ordre créateur. Ce qui est créateur, c'est la différenciation. La question qui se pose et qui est une piste d'approfondissement dans l'évolution, j'y reviendrai, de la théologie morale, c'est est-ce que une relation entre deux personnes du même sexe n'intègre pas l'altérité et la différenciation? C'est une question qui mérite d'être approfondie d'un point de vue psychologique, mais aussi théologique. Alors cette affirmation que l'orientation homosexuelle non choisie est objectivement désordonnée, que les actes homosexuels sont intrinsèquement désordonnés, un tel langage, vous comprenez, fait problème, suscite beaucoup de difficultés, source aussi de souffrances pour un bon nombre de personnes qui vivent l'homosexualité et qui en même temps cherchent à vivre leur foi chrétienne sincèrement et se sentent souvent, à partir de cette expression, rejetés par l'Église, parfois même écartés de responsabilité en Église. J'ai connu des personnes qui étaient organistes, qui étaient catéchistes, et quand on découvrait leur orientation sexuelle, eh bien l'Église demandait de s'abstenir de toute responsabilité en Église. Et parfois même, donc, écartés des sacrements. La question rebondit alors, est-il possible à des personnes qui vivent cette situation d'exprimer leur affection sans être classées dans une catégorie d'immoralité? Le bien vécu dans une union stable pour certains, est-ce que ça ne mérite pas d'être reconnu dans sa part positive? J'y reviendrai par rapport à une déclaration qui avait été faite en 2012, au moment des débats sur le mariage pour tous. La théologie morale, elle doit évoluer. Et le pape François appelle à cette évolution. Il appelle à une conversion pour une approche qui soit vraiment orientée vers l'action missionnaire et la défense de la dignité des personnes. Ça a été rappelé au mois de mars 2021. Le droit et la morale ne peuvent s'arrêter aux principes théoriques. Voilà le point de vue fondamental que le pape François défend. Une théologie morale qui ne serait que le développement de principes sans la dimension de rencontre et de dialogue, elle se disqualifie. Je le cite, « La seule connaissance des principes théoriques ne suffit pas. L'annonce de l'Évangile dans une société en mutation rapide exige le courage d'écouter la réalité », ajoute-t-il. Et selon lui, la théologie morale doit entrer dans une relation vivante avec les membres du peuple de Dieu, avec une option préférentielle pour les plus pauvres. Il appelle donc au développement d'une réflexion théologique, morale, et d'une action pastorale, les deux étant liés, capables de s'engager pour le bien commun, qui ont leurs racines dans la proclamation du kérigme, tel qu'il le définit dans Evangelii Gaudium, c'est-à-dire le kérigme, « Dieu est présent dans ta vie ». Il a donné sa vie en Jésus-Christ pour toi. Il t'accompagne dans ton parcours de vie. Tout homme, quelle que soit sa situation, Dieu est présent et l'accompagne. Donc dans la proclamation du kérigme, ce n'est pas simplement « Christ est ressuscité, alléluia ». C'est l'affirmation et la découverte, c'est l'horizon de l'évangélisation, que chaque personne humaine trouve et découvre la présence, la proximité de Dieu dans sa vie, une présence bienveillante qui veut le conduire sur un chemin de croissance humaine et de bonheur. Le pape François donc appelle à dépasser une éthique individualiste, en ne réfléchissant pas seulement à la formulation de principes et de normes. Une théologie morale qui se contente du « tu dois, il faut », c'est interdit, c'est permis, c'est trop insuffisant. Cette approche court selon lui le risque d'absolutiser le droit des forts, alors que le radicalisme de l'Évangile ne peut jamais être opposée à la faiblesse humaine. Il faut toujours conjuguer la découverte de l'Évangile, l'avancée sur le chemin du Christ, à la suite du Christ, et notre faiblesse humaine, car tous, nous avons des fragilités, des vulnérabilités, des faiblesses. Dès le début de son pontificat, il y a plus de 10 ans, il avait semblé ouvrir une brèche aux yeux des partisans d'une évolution de la doctrine sur la question de l'homosexualité, avec une phrase qui est restée célèbre depuis. « Si une personne, disait-il, est gay et cherche le Seigneur avec bonne volonté, qui suis-je pour la juger ?» Et au fil des années, on sait que François, à plusieurs reprises, a décroché son téléphone pour conforter des personnes homosexuelles qui lui écrivaient leur souffrance de n'être pas reconnu en Église. Il n'a pas changé la doctrine. Le catéchisme de l'Église catholique définit toujours l'homosexualité comme une tendance intrinsèquement désordonnée. Mais il souhaite qu'on puisse reprendre la question au niveau romain, mais aussi au niveau de la conférence des évêques de France. C'est une question qui va être retravaillée avec des théologiens moralistes, parce que ce que l'on dit de l'homosexualité a beaucoup bougé depuis ces dernières années. Et on ne peut pas ne pas tenir compte de ces évolutions dans l'approche de cette réalité. Alors, quelle est la perspective ouverte par le pape François ? En février 2021, une note du dicastère pour la doctrine de la foi concluait à l'impossibilité de bénir les couples homosexuels, et ça a réveillé ce débat récurrent. La note de la doctrine de la foi a été rendue publique le 15 mars, et le dimanche suivant, le 21 mars, François déclare « Le Seigneur, par sa grâce, nous fait porter du fruit, même quand la terre est aride, à cause d'incompréhension, de difficultés ou de persécutions, ou de prétentions de légalisme ou de moralisme cléricaux. Voilà ce qu'est une terre aride. » D'aucuns ont vu une façon pour le pape de prendre ses distances à l'égard de la position du dicastère pour la doctrine de la foi quelques jours auparavant. Le pape François ne vise pas tant à bouleverser la doctrine qu'à nous inviter à aborder une perspective nouvelle qui, elle aussi, appartient à une tradition aussi certaine de l'Église catholique. Pour cela, il revient, comme il l'a déjà fait dans Maurice Laetitia, à ce grand théologien moraliste, saint Alphonse de Ligorie, qui a été déclaré docteur de l'Église en 1871, le 23 mars 1871, et à l'occasion du 150e anniversaire de cet événement, le pape a envoyé une lettre au supérieur modérateur de la congrégation du Très-Saint Rédempteur que Alphonse de Ligorie avait fondée. Dans cette lettre, il appelle la théologie morale à une conversion pastorale. La théologie morale n'est pas simplement la répétition des principes moraux et doctrinaux, mais elle doit avoir une visée pastorale. Toute l'action de l'Église doit avoir une visée pastorale. Pour une approche qui soit orientée vers l'action missionnaire, faire connaître l'Évangile, rendre possible l'accueil de l'Évangile et une vie selon l'Évangile, et la défense de la dignité des personnes. Il insiste dans cette lettre pour que le droit et la morale ne s'arrêtent pas aux principes théoriques. La seule connaissance des principes théoriques ne suffit pas, répète-t-il. Il invite donc à dépasser l'éthique individualiste en ne réfléchissant pas seulement à la formulation de principes, de normes, mais à chercher une pastorale qui soit juste, qui accompagne les personnes dans les situations où elles se trouvent, pour y vivre en fidélité au Christ et progresser vers l'épanouissement de leur humanité, quelle que soit la situation où ils sont. C'est comme il l'écrit dans Amoris Laetitia, l'appel, je cite, à une pastorale positive, accueillante, qui rend possible un approfondissement progressif des exigences de l'Évangile. Cependant, reconnaît-il, dans l'Église, nous avons souvent été sur la défensive et nous dépensons les énergies pastorales en multipliant les attaques contre le monde décadent avec peu de capacité dynamique pour montrer des chemins de vie et de bonheur. Un peu plus loin dans Maurice Laetitia, au numéro 250, il définit ainsi la perspective pastorale. Il s'agit, dit-il, d'éviter toute marque de discrimination injuste et particulièrement toute forme d'agression et de violence à l'égard des personnes. Il s'agit au contraire d'assurer un accompagnement respectueux des familles afin que leurs membres qui manifestent une tendance homosexuelle puissent bénéficier de l'aide nécessaire pour comprendre et réaliser pleinement la volonté de Dieu dans leur vie. Lorsque, quelques semaines avant le synode sur la famille, on savait que la question allait être disputée pendant le synode et que les positions des évêques n'allaient pas de loin être unanimes, en accord avec les responsables nationaux de DUEC, j'ai demandé à Mgr Paglia, qui était le responsable du Conseil pontifical pour la famille, de recevoir les responsables nationaux de DUEC. Et le Mgr Paglia a fait écho de cette rencontre, jugeant de bonne qualité le chemin que permettait ce mouvement devenir un en Christ, qui partait de ce que vivaient les gens et qui leur donnait la possibilité de faire chemin à la suite du Christ, pour découvrir, réaliser, mettre en œuvre, dans leur situation, les exigences de l'Évangile. Deux attitudes différentes, où on ferme le guichet, il n'y a rien à voir, et on exclut, ou bien on intègre pour permettre aux gens, dans la situation où ils sont, de poursuivre le chemin à la suite du Christ et d'intégrer les exigences de l'Évangile. Comme le pape le dit encore, la doctrine n'est pas un musée ou un congélateur, elle n'est pas statique, elle doit grandir et se développer. Et pour imaginer une évolution, il faut un vrai travail théologique, ouvert, pluriel, qui reprenne les données de la révélation, et la commission biblique pontificale a commencé à le faire, qui reprenne les données de la tradition, notamment sur la compréhension de la question de la loi naturelle, et qui prenne aussi en compte l'expérience des personnes homosexuelles elles-mêmes, ainsi que le sensus fidei des fidèles, et aussi l'enseignement des sciences humaines. L'approche de l'homosexualité a beaucoup bougé quand on travaille avec des psychologues, des psychosociologues ou des sociologues. L'accueil et l'accompagnement de ces personnes sont indispensables. Et des associations telles que DUEC jouent ce rôle, et dans de nombreux diocèses, des personnes ont été missionnées, des accueils, des journées d'écoute, de dialogue, de prière, une journée ou une soirée comme nous vivons ce soir, des formations aussi sont organisées. Amoris Laetitia nous invite à accueillir toute personne avec bienveillance, à ne pas juger selon des catégories morales a priori, mais accompagner chacun sur un chemin de vérité et de foi et à faire preuve de discernement selon les situations singulières et l'histoire singulière de chacun. Comme souvent, l'écoute des personnes change notre regard, elle nous invite à considérer l'expérience spirituelle authentique de toutes les personnes, dans quelque situation qu'elles se trouvent, et tenter de discerner avec elles ce que l'Esprit vient nous dire. Une bonne théologie morale, dans la lignée de saint Alphonse de Ligorie, doit d'abord prendre en compte la réalité, notamment le concept central chez la théologie de saint Alphonse de Ligorie, la réciprocité des consciences. C'est-à-dire, je n'ai pas la vérité que j'impose à l'autre. Ce qui amène le pape à dire dans Amoris Laetitia qu'il est difficile de ne pas se substituer à la conscience de l'autre, mais par le dialogue, d'éclairer la conscience de l'autre pour qu'il puisse prendre sa décision, faire ses choix, s'orienter dans l'existence, en conscience, devant le Seigneur. Cela suppose de la patience, du discernement. C'est plus facile de dire « voilà les principes, voilà les normes, t'exécutes ou t'es dehors ». Patience, discernement, c'est un des objets de la rencontre de ce soir. Je voudrais vous lire deux passages d'un texte qui avait été publié en septembre 2012, au moment du débat sur le mariage pour tous. Je présidais le Conseil Famille et Société. C'est donc ce Conseil Famille et Société. On avait travaillé beaucoup en interdisciplinarité. Voici deux passages, ce qu'on avait dit. On était avant François, je signale. Je ne peux pas dire que j'ai eu des félicitations de mes frères évêques quand le texte est sorti. Le processus de découverte par les personnes homosexuelles de leur identité et de leur orientation est complexe et souvent douloureux. C'est tout autre chose que le choix volontaire entre deux styles de vie bien définis et présents dans notre culture. Après avoir écouté des personnes qui vivaient cette situation, on s'apercevait qu'on ne se réveille pas un beau matin en décidant de son orientation sexuelle. On la découvre comme existante. Et puis il y avait la question du mariage entre personnes du même sexe. Sous réserve de ce manque de données précises, plusieurs études montrent que les pratiques homosexuelles ont évolué et que l'aspiration à vivre une relation affective stable se rencontre plus fréquemment aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Les sociologues nous disaient « la stabilité affective est liée au sida ». C'est-à-dire que le vagabondage sexuel s'est presque éteint par crainte de la contamination, donc on a cherché une stabilité. Cette réalité n'est pourtant pas uniforme. La cohabitation sous le même toit, la relation sexuelle ou l'exclusivité du partenaire ne font pas toujours partie des éléments d'une telle relation stable. Mais la diversité des pratiques homosexuelles et le fait que certains lobbies cherchent sciemment à déconstruire le mariage civil ne doivent pas empêcher de prendre au sérieux les aspirations de celles et ceux qui souhaitent s'engager dans un lien durable. Même si les partenaires homosexuels se différencient des couples hétérosexuels par l'impossibilité de procréer naturellement, et même si la sexualité humaine demeure, pour chacun, énigme, merveille et errance, pouvons-nous être insensibles à ce que comporte de positif l'engagement à la fidélité d'une affection, d'un attachement sincère, du souci de l'autre et d'une solidarité qui dépasse la réduction de la relation homosexuelle à un simple engagement érotique. Autrement dit, peut-on diaboliser les personnes qui s'engagent dans cette expérience de façon stable ? Il peut y avoir des valeurs positives qui sont vécues dans cette relation. Je crois qu'aujourd'hui, avec les avancées que le pape François permet, il nous invite à nous mettre à l'écoute de ceux qui vivent cette expérience pour y discerner ce qu'il peut y avoir de positif, pour le valoriser, et ce qui est positif n'est pas étranger à l'Évangile. Voilà un peu rapidement campé où on en est de la question. Mais en théologie morale, il nous faudra continuer à approfondir une approche théologique de la question de l'homosexualité. Merci.